Bonjour à tous. Toujours heureux de vous revoir, de partager le pain de la parole de Dieu avec vous. Rompre le pain qu'on a fait tout à l'heure, mais aussi maintenant, considérer ensemble ce trésor que le Seigneur nous a laissé, sa parole qu'on a tant besoin, jour après jour. Je crois que c'est un petit peu moi qui ferme l'année ce matin, côté prédication. Bon. Je m'appelais le frère André, celui qui s'occupait de la porte à l'oratoire Saint-Joseph. Il ouvrait la porte puis il fermait. Alors voilà. Je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Excusez, j'ai une petite feuille que j'aurais besoin ici. Oui, je l'ai. Alors, on nous rappelle que encore une année qui se termine. 2024, ça va faire partie du passé dans quelques jours, dans une semaine, mais un peu plus. Le temps passe vite. Et le Seigneur, lui, sait exactement quand il va paraître pour venir chercher les siens. Alors peut-être qu'on entre dans l'année où ce sera le grand jour, le moment béni, où le Seigneur viendra nous prendre. On ne le sait pas, mais le Seigneur nous dit toujours de se tenir prêt. Dans sa sagesse, il ne nous a pas donné de date pour qu'on soit toujours prêt. Hein? Alors on va tourner dans le verset au chapitre 5 d'Éphésiens, versets 15 jusqu'à 21. Éphésiens 5, versets 15 à 21. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Alors que Dieu bénisse sa parole, qu'elle puisse nous parler, faire le bien, qu'elle nous fasse le bien qu'on a besoin, qu'elle nourrisse vraiment nos âmes. Ce matin, le titre de notre passage est « Marcher dans la sagesse » ou, en d'autres mots, « Vivre dans la sagesse ». Le mot « marcher » dans la Bible a toujours un synonyme de « vivre ». Comment vivre? Mais de cette façon-là, « marcher dans la sagesse ». Et d'ailleurs, je l'avais déjà mentionné, je crois, la dernière fois que je suis venu ici, concernant l'Épître aux Éphésiens, c'est que, à partir du chapitre 4, c'est l'aspect pratique que l'apôtre Paul établit, après avoir donné son enseignement dans les trois premiers chapitres, et les chapitres suivants, 4, 5, 6, c'est le côté pratique de l'Épître, et ça a commencé à marcher dans l'unité au chapitre 4, la première partie du chapitre 4. Plus loin, marcher dans la sainteté. Ensuite, marcher dans l'amour, vivre dans l'amour. Vivre dans la lumière, versets 8 à 14 du chapitre 5. Et ce matin, ce qu'on regarde ensemble, marcher dans la sagesse. Et marcher dans la sagesse, ça commence au verset 15 qu'on vient de lire, et ça se termine au verset 9 du chapitre 6. Alors donc, le passage qu'on regarde ensemble ce matin me fait penser à ce cantique que vous devez certainement connaître. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, etc. Je ne chanterai pas, je veux garder mes amis. Bon. L'apôtre, au verset 15, déjà, il nous dit que marcher dans la sagesse nous commande de se conduire avec circonspection. Il dit bien, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Hey, c'est tout un mot, ça, hein, circonspection. N'emploie pas ça beaucoup de fois par jour. Hein? La mère ou le père va dire à l'enfant, conduis-toi avec circonspection, mon fils. Pas sûr. On va trouver d'autres mots que ça. Hein? Ça nous parle de prudence, de réflexion. Circon, un cercle, hein? C'est un rond. Spection, inspection. Donc, c'est d'avoir les deux yeux en face des trous, comme ma mère me disait. En bon québécois, check tes claques. C'est de la prudence, de la réflexion, vigilance, une vigile, de l'intelligence du temps, le temps où l'on vit. Alors donc, c'est pour ça qu'il continue en disant, vous conduire avec circonspection, non comme des insensés. Agir avec circonspection, c'est le contraire d'agir comme un fou. C'est en quelque sorte. Il dit non comme des insensés, mais comme des sages. Comme des sages. Et racheter le temps. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Avant qu'on connaisse le Seigneur, je pense qu'on a gaspillé pas mal de temps. Hein? On a perdu du temps. On a gaspillé du temps. Maintenant, l'apôtre nous parle de racheter ce temps-là. Racheter ce temps-là. C'est-à-dire saisir l'occasion pour agir puis pratiquer le bien. Saisir l'occasion pour agir, pratiquer le bien. On sait qu'on vit des jours mauvais. En tant que chrétien, on devrait vraiment en être convaincu. Un siècle mauvais, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là, que les jours sont mauvais? On vit dans un temps où le péché règne avec puissance. Et de plus en plus, hein, ça se dégrade de plus en plus autour de nous, moralement parlant. La piété se relâche. L'opposition du monde se renforce. On n'a pas besoin de lire les journaux longtemps ou de regarder la télé. Il y a vraiment une dégradation incroyable et constante dans notre monde présentement. Et l'apôtre Paul va dire, il y a 2000 ans, il a dit à Timothée, 2 Timothée 3, versets 1 et 2, je vous les lis, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, etc. Les jours sont mauvais. Voilà ce que l'apôtre veut vraiment faire comprendre ici. Alors, c'est de se conduire avec sagesse dans tout ce climat malsain, se conduire avec sagesse. Le verset 17, il dit bien, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Être des chrétiens avisés. Hein, il dit, « Ne soyez pas inconsidérés. » Le contraire, c'est d'être quelqu'un d'avisé. On sait ce qu'on a à faire. Réfléchi, quelqu'un d'éveillé. Circonspect, sage. L'apôtre Paul, encore une fois, dans Romains 13, verset 11, il dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Il dit, « Vous savez le temps où l'on vit. Vous connaissez le climat qui est autour de nous. » Alors qu'on puisse comprendre c'est quoi la volonté du Seigneur en ce qui nous concerne, nous les croyants. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je pense que j'ai le guide parfait ici pour savoir ce que Dieu attend de moi, hein? Attend de nous, c'est clair. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Agir avec sagesse. Donc, se conduire comme des sages. Et se conduire comme des sages, bien, ça implique les points qui vont suivre maintenant, à partir du verset 18. Là, l'apôtre Paul va se montrer très concret, si je peux dire. Il va être clair. Il dit, au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » On s'arrête là, la première partie du verset 18. Mais là, c'est un peu bizarre. Il arrive avec ça, ne vous enivrez pas de vin. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pour nous, Québécois du 21e siècle, on sait bien que, bon, les gens prennent du vin, généralement, oui. Pas nécessairement s'enivrer. Alors, mais pourquoi il pose cette exhortation? Pour bien comprendre, c'est que la ville d'Éphèse, hein, ça c'est l'Épître aux Éphésiens. À Éphèse, c'était une ville où la majeure partie de la population, c'était des païens et non pas des juifs. Ce que j'entends par des païens, c'est toutes les races à part des juifs, des non-juifs. On se comprend bien. Et chez les païens de cette époque, leur religion qu'ils pratiquaient, ils allaient à des temples d'idoles. À Éphèse, la ville d'Éphèse, il y avait un temple, le temple de la Diane, Artémis. C'est un temple renommé, qui était renommé dans le monde entier à l'époque. Tout un temple. Le temple est bien beau, mais ce qu'il faisait à l'intérieur, c'était pas beau. Ce qu'il pratiquait. Il offrait des sacrifices à des faux dieux, à des divinités. Mais l'offrande de leurs sacrifices était toujours associée à la débauche avec des prostituées. Excusez, mais c'était un bordel en même temps qu'un temple d'idole. Vous voyez un peu le tableau, c'était assez épouvantable. Et en même temps, quand on offrait ces sacrifices, on prenait du vin et on s'enivrait de vin afin de chercher l'extase, l'excitation des sens, pour, selon ce qu'ils pensaient, pour avoir accès aux divinités, avoir un contact avec les faux dieux. Alors, vous voyez ce que ça donnait. C'était assez épouvantable. C'était, pour l'ivresse du vin, finalement, de prendre du vin puis s'enivrer, c'était inhérent au culte et à la culture chez les Éphésiens. Donc, dans leur vie de tous les jours, c'était assez régulier de prendre du vin puis pas juste se contenter de prendre une coupe de verre. Non, non. On s'enivrait. Voilà, c'était l'habitude. Donc, on comprend mieux pourquoi l'exhortation ici, ne vous enivrez pas de vin. Ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe ou comme un cheveu dans la coupe de vin, là. Vous le voyez, c'est clair. C'était inhérent au culte et à la culture chez les non-juifs, les païens. Alors donc, évidemment, les personnes à qui l'apôtre Paul s'adresse ici, oui, c'était des non-juifs, mais ils étaient devenus chrétiens. Ils étaient devenus des croyants. Alors, pour l'histoire de l'ivresse du vin, il devrait y mettre fin, puis ça presse. Hein? Il dit bien, c'est quoi l'ivresse? S'enivrer de boissons alcoolisées, s'enivrer, c'est de la débauche. Ça veut dire que c'est de la dégradation morale, hein? La dissolution. 1 Pierre, chapitre 4, verset 3, il va dire ceci, je crois que je l'ai noté sur ma feuille, 1 Pierre, chapitre 4 et le verset 3, il dit, « C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans les dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. C'est assez. Tournez-vous de ça, c'est fini. » Une fois devenu croyant. Alors, voilà l'exhortation qu'il adresse à ses chers enfants de Dieu. Maintenant, si vous me permettez une petite précision, prendre du vin, ce n'est pas interdit aux chrétiens. Hein? Ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est l'abus, simplement. Ce n'est pas interdit. Bon, on a dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus aux noces de Cana, ils ont manqué de vin. Le Seigneur a pris des cruches d'eau, il a changé l'eau en vin. C'était certainement pas de l'eau de source à la fin, c'était du vin. Ensuite, l'apôtre Paul va dire en 1 Timothée, chapitre 5, verset 23, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau seulement, mais fais usage d'un peu de vin pour ton estomac et tes fréquentes indispositions. » Timothée avait des problèmes avec son estomac. Alors, l'apôtre Paul lui conseille de prendre un peu de vin. Bon, il n'a pas dit sur le toit, il a dit prends-en un peu, ça va te faire du bien. Je le répète, le problème, c'est l'abus. Et encore ici, dans les Proverbes, je vous lis Proverbe chapitre 20, verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. C'est intéressant qu'on parle du vin matin, le temps des fêtes. Hein? Il y a un petit à propos là-dedans. Là. Donc, le croyant, il n'y a pas une défense de prendre du vin. Le problème, c'est d'en abuser. Mais ce qui est, malheureusement, ça peut arriver de s'enivrer, même chez un chrétien. Et ça, c'est triste. C'est une honte. Si on se rappelle Noé, en sortant de l'arche, il s'est planté une vigne, puis il s'est saoulé. Bon, ça faisait un an qu'il était dans l'arche, avec trois femmes. Peut-être que c'était traumatisant. Je ne sais pas. On jase le même, là. C'est promiscuité, un peu enfermé, toujours à la même place. Et il n'y était plus d'un grand espace. Là. Je veux bien croire que l'arche était grand, mais il y avait des animaux en bébite. Là. Il y avait des petits. Ouais. Donc, peut-être. En tout cas, on n'a pas une bonne excuse. Il n'y a jamais une bonne excuse à s'enivrer, évidemment. Donc, Noé. Il n'y a pas juste Noé. Si vous tournez dans les pages, on n'ira pas voir, on n'a pas le temps, mais dans 1 Corinthiens 11, et versets 20 et 21, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens concernant le repas du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il a parlé du repas du Seigneur? C'est parce qu'il y avait des abus, puis il y avait une conduite honteuse de la part de certains chrétiens à Corinthe. Et n'oublions pas que Corinthe est un milieu païen, voyez-vous? Et ces nouveaux chrétiens-là, ben malheureusement, ils accrochaient encore avec leurs vieilles habitudes. Le repas du Seigneur, à cette époque, c'était précédé par un agape, c'est-à-dire un repas communautaire, ensemble. Chacun apportait son repas, et après le repas, on prenait les emblèmes, on se rappelait du Seigneur dans la fraction du pain. Mais il y en avait, malheureusement, que pendant le repas communautaire, ils ont été forts avec le vin. Et ils étaient rendus à prendre les emblèmes. Ils étaient en état d'ébriété, l'apôtre Paul. C'est épouvantable ce que vous faites là. Donc, voyez-vous, ils revenaient avec leurs anciennes habitudes, là, malheureusement. Ça fait que voilà pourquoi il va parler de ce sujet du repas du Seigneur. Alors, comme tout autre péché, l'ivresse du vin, bien malheureusement, c'est ça. C'est un péché aussi. Si je ne peux pas consommer du vin sans en abuser, c'est clair, je m'en abstiens, c'est tout. Il y en a qui ne sont pas capables de se contrôler. Et si j'en prends, bien la modération a bien meilleur goût, hein, comme dit l'annonce. Et encore là, un dernier point sur le vin, c'est que si... j'ai un frère chrétien, par exemple, qui est convaincu qu'on ne devrait jamais boire du vin, bien, si je me trouve en sa présence, je devrais, moi, non plus. Je ne devrais pas en boire. Question de ne pas le scandaliser et encore ne pas semer la bisbille avec lui. C'est pas de commencer à essayer de lui dire, « Bien là, tu comprends mal, je vais t'expliquer. » Non, non, tu le respectes, ses convictions. Qui est convaincu qu'on ne doit pas en prendre. D'accord. Alors, en sa présence, je m'abstiens d'en prendre, simplement. Romains 14, 21 dit ceci, « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Je crois que c'est clair. Alors donc, voilà l'exhortation ici de fuir l'ivresse du vin. Maintenant, dans le même verset 18, la deuxième partie, « Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. » Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. Alors, voilà l'autre alternative. Agir avec sagesse, c'est de rechercher la plénitude du Saint-Esprit et non pas la plénitude du vin, hein? Fuir l'ivresse des spiritueux pour la plénitude spirituelle. Hein? On peut dire ça même, un petit poème en passant. Là. Bon. Ici, c'est un commandement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Dieu désire de moi, de chacun de nous, l'obéissance. Et être rempli du Saint-Esprit, ça ne s'adresse pas à des chrétiens sélects qui sont au-dessus de la moyenne. Là. Non, non, c'est chacun d'entre nous. Que ce soit tout jeune dans la foi ou très expérimenté dans la foi, ça s'adresse à chacun d'entre nous, tout chrétien. Donc, ça indique l'idée ici d'en bénéficier constamment, de continuer d'être rempli du Saint-Esprit. Continuer. Quand on dit d'être la plénitude du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que c'est simplement l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Non, parce qu'il habite dans tous les croyants. Il habite dans chacun de nous, mais ce n'est pas tous qu'on peut être rempli de l'Esprit. Mais c'est un commandement de l'être. Et ça ne se réfère pas non plus au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est inhérent à la conversion. Le jour où je me convertis au Seigneur, et je suis en même temps immergé dans l'Esprit pour former un seul corps qui s'appelle l'Église. Bon, je peux vous lire rapidement, c'est 1 Corinthiens 12, 13, hein, qui est très clair là-dessus, il dit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul Esprit pour former, il est au passé le verbe, « Nous avons tous été », il s'adresse aux Corinthiens, « baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc, alors, être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi précisément? Être rempli, on ne parle pas d'un niveau de remplissage ici. Tu peux être rempli à un quart, une demi, à trois quarts. Non, non, écoutez, là, il n'y a pas des réservoirs. Mais c'est plutôt d'être contrôlé par le Saint-Esprit. De vivre continuellement sur son influence de l'esprit. Contrairement à être sous l'influence du vin, je suis sous l'influence de l'esprit. Quand tu es sous l'influence du vin, l'ébriété, c'est plus toi qui contrôle, c'est le vin qui te contrôle. Hein? Et si tu es rempli du Saint-Esprit, bien, c'est l'Esprit de Dieu qui te contrôle, et non pas c'est toi, la chair. Colossiens 3,16, il y a un passage parallèle ici qui est très éclairant, pour nous faire mieux comprendre c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit. Et Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite, demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres avec sagesse, par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Être rempli du Saint-Esprit, c'est l'équivalent d'être rempli de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu est vraiment l'objet qui nous contrôle, qui contrôle notre vie. Soumission à la parole de Dieu. On la laisse exercer le contrôle sur nous. Ça implique, bien sûr, de lire la parole, la méditer, puis de l'appliquer dans tous les domaines de ma vie. Le psalmiste, au psaume 119, dira, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Être la plénitude du Saint-Esprit nous parle de mener une vie pure, confesser chaque péché connu, que j'en suis conscient, et être rempli de l'Esprit, c'est en même temps synonyme de marcher selon l'Esprit. Galates 5, verset 16, 5, 22 plutôt, nous dit, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors, est-ce que c'est clair? Oui. Oui, on opine du bonnet, oui. OK. Maintenant, il y a quatre résultats que le texte nous donne ici pour des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Comment je vais réagir en étant rempli du Saint-Esprit? C'est intéressant. Quatre résultats que ça peut produire. Premièrement, je vais parler, oui, de l'abondance du cœur, la bouche. Il y en a un qui ne dort pas. C'est bien. Je vais aussi chanter, que le texte nous dit. Je vais aussi être je vais remercier, je vais avoir le cœur rempli de gratitude. Et finalement, je vais être soumis aux autres. Je ne serai pas une tête forte à m'astiner tout le monde et à vouloir avoir raison sur tout. On en reparle dans quelques minutes. Il me reste combien de secondes? Oui? OK. Ah, d'accord, c'est de votre faute. Ah, je vais perdre des amis, je pense. La plénitude du Saint-Esprit. D'abord, je vais parler. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. On va s'arrêter là. On va s'entretenir ensemble. Si vraiment le Saint-Esprit me contrôle, me possède, je suis rempli de l'Esprit, bien, on vient de le dire, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Hein? Vous avez quelqu'un que vous aimez ou un sujet que vous aimez dans votre vie, là, n'importe quoi. Alors, remarquez-vous, on a une tendance à en parler. Hein? On est intéressé, ça nous pique, ça nous a piqué, là. On en parle. Ici, entretenez-vous par des cantiques, des psaumes. On va se parler l'un à l'autre, on va partager ensemble. Le passage nous parle ici d'une réunion entre croyants, hein, où on s'entretienne sur les psaumes. Puis les premiers chrétiens lisaient les psaumes. Il n'y avait pas l'Ancien Testament, ce n'était pas encore écrit. Donc les psaumes, ils connaissaient, surtout chez les Juifs convertis, ils connaissaient déjà les psaumes depuis longtemps. Donc ils les lisaient ensemble, ils partageaient là-dessus ensemble. Puis j'aime à penser qu'étant remplis de l'Esprit, ça devait leur donner un regard neuf sur les psaumes. Ça devait leur faire du bien. Ils découvraient des choses, ils comprenaient mieux, là. Après, avec la venue du Messie, du Seigneur, et l'Esprit, il les éclaire. Donc, ils en parlaient ensemble. Et il y a hymnes et cantiques. Les hymnes, ce sont des chants inspirés afin d'adorer, de louer Dieu. Puis des cantiques spirituels, c'est des compositions poétiques qui décrivent plutôt l'expérience chrétienne. Donc, ils s'entretenaient ensemble de ces choses-là, de la parole de Dieu, et ils chantaient aussi. C'est sûr qu'un cœur qui est rempli de l'Esprit, c'est un cœur qui chante. Bon, écoutez, on n'est pas tous des chanteurs, non, mais on peut chanter dans notre cœur, hein? Si ça sort tout faux, on veut quand même être charitable envers les autres, donc on chante dans notre cœur, sans chanter en cœur, évidemment. Bon, mais chantant et célébrant les louanges. Le mot « célébrer » ici est très intéressant dans l'original. Ça nous parle de jouer d'un instrument à cordes. Et rappelons-nous que les psaumes étaient toujours accompagnés de musique. Les 150 psaumes de la Bible, ce sont des poèmes chantés. Les Juifs, les Hébreux les chantaient. Pour nous, étant donné que c'est traduit en français, on n'a plus de rimes, là. Les rimes, c'est dans l'hébreu. Mais bon, quand même, mais les psaumes, c'est une richesse extraordinaire. J'y étais chanté, accompagné d'instruments de musique, puis, comment dire, donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, la joie, les chants de louange, c'est une preuve, justement, que le Saint-Esprit nous possède vraiment, puis que la parole de Dieu est en nous. Là, c'est ça. Écoutez, personnellement, bon, moi, je suis un maniaque de la musique. Je ne suis pas un musicien avec un grand M, mais ça fait peut-être 50 ans que je joue de la guitare, puis j'ai eu un groupe, etc. La musique, pour moi, c'est quelque chose qui vient beaucoup, beaucoup me chercher, là. Moi, le matin, là, après avoir... mon temps avec le Seigneur, je déjeune, puis après ça, ting! J'ouvre mon système de son, puis c'est des cantiques. Ça peut être en anglais, en français, mais pour moi, là, c'est. En écoutant les paroles, il y a une édification, ça fait du bien. Du bien. Oui, écoutez, je ne vis pas sur une autre planète, j'écoute les nouvelles aussi, là. Je me tiens au courant de ce qui se passe dans le monde. Je ne suis pas sur une montagne seul, là, un ermite, quand même. Mais il y a tellement des cantiques bien écrits, là, puis la richesse des paroles, puis on sent que Ça a été inspiré, le Seigneur les a éclairés avant de composer ces cantiques-là. Alors, ça nous réchauffe le cœur, ça. Donc, un cœur qui est rempli de l'Esprit, c'est un cœur qui a envie de chanter. La joie, les chants de louange, bien, encore là, ça peut être vraiment une preuve qu'on est rempli du Saint-Esprit. La joie, les chants de louange, preuve qu'on est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit avec raison que la vie remplie de l'Esprit, c'est une fontaine qui déborde. Hein? Célébrant, puis il dit ici dans le verset, « Célébrant de tout votre cœur. » Donc là, on ne chante pas comme si c'était un enterrement, là, un service funèbre. « Chantant de tout votre cœur. » Il y a vraiment là, de la... Je trouve pas le mot, là, mais de la vie, beaucoup de vie, extrêmement, oui, très vivifiant. Ensuite, le troisième point, troisième preuve, on est rempli du Saint-Esprit, c'est qu'on va être reconnaissant. On va remercier Dieu. Le verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Plénitude de l'Esprit produit la reconnaissance, un sens profond de gratitude. La gratitude qui s'exprime de façon spontanée. C'est pas... Puis être reconnaissant, pas seulement occasionnel, quand il nous arrive de quoi de vraiment heureux, on est content, mais c'est écrit ici, faut pas que je me trompe, là, entraînez-vous, là. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Oh! Ah bon, ça ne veut pas dire que c'est toujours des choses heureuses. Hein? Pour toutes choses. Dans les bons et dans les mauvais jours. Il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit pour se montrer reconnaissant. Et surtout dans les jours sombres, quand ça ne va pas bien. Rappelons-nous Job, vous pourrez lire pour vous-même chez vous, mais Job chapitre 1, il y a le verset 21 qui est remarquable. Job venait de perdre tous ses troupeaux, ses granges, ses bâtiments venaient de brûler. Il avait perdu ses enfants. Il lui restait juste sa femme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Verset 21, si ma mémoire est bonne, il a dit ceci. « C'est nu que je suis sorti du sein de la terre, de ma mère. Et c'est nu que je vais rentrer dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job adorait, dans ces circonstances-là, quelqu'un qui n'est pas chrétien, puis il est ça, mais il est à fourraide. Wow, il vient de perdre ça, là, carrément fêlé. Hein? Non, il n'était pas fêlé. C'était un croyant authentique. Et il voyait plus loin, plus haut que tout ce qu'il avait perdu. Il savait qu'il y avait une richesse beaucoup plus grande que tout ce qu'il possédait. Job était un homme immensément riche. Il a tout perdu, mais il a tout retrouvé par la suite. On connaît l'histoire. Mais quand même, là, il ne savait pas. Là. Il ne connaissait pas l'avenir, lui-là. Là. Il venait de tout perdre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Remercier Dieu dans toutes circonstances. L'apôtre Paul, acte 16, verset 25, avec son compagnon d'œuvre, Silas, qui était dans la ville de Philippe, ils ont prêché, ils ont été arrêtés par les autorités, ils ont été mis en prison. Mais avant d'être en prison, ils ont été fouettés 40 coups. Hein? Puis ils étaient enchaînés, blessés, en pleine nuit. C'est écrit qu'il commence à adorer le Seigneur et à chanter des cantiques. Le gardien de prison, il a dit, ça y est, j'en ai fait, c'est trop fort. Non, t'as pas fait aller, les autres non plus. Il voyait plus loin, mais était capable d'adorer, de remercier Dieu en chantant des cantiques. Je le répète, il faut être rempli de l'Esprit pour se montrer reconnaissant dans les jours sombres, autant que les jours heureux. Et finalement, se soumettre les uns aux autres. Verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Ça, c'est le vivre ensemble, de s'aimer, de se supporter. On a tous des qualités, mais on a aussi des défauts. Mais voilà. C'est pas Denise? Oups. Non. OK. Non, c'est parce qu'on s'agace souvent. C'est pour ça. Tout chrétien rempli d'esprit va démontrer de l'humilité et de la soumission. Pour, comment est-ce qu'il dit, se soumettre les uns aux autres, il faut avoir une bonne dose d'humilité et de soumission. Ce n'est pas juste vrai dans le couple marié, mais entre nous, les croyants, avec des différents caractères que nous possédons. Il y a des choses chez mon frère que j'aime beaucoup, il y a d'autres choses qui m'énervent. Pas mal. Donc, se soumettre, s'aimer les uns les autres. Dans notre relation spirituelle avec Christ par la foi, on sait qu'on est, on est tous égaux en tout point. C'est écrit que dans Galates 3, 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » C'est-à-dire, dans notre union avec Christ par la foi, il n'y a plus de distinction. Là. Je peux avoir devant moi un homme très, très savant, puis un autre, quelqu'un de très simple, mais dans notre union avec Christ, unis à lui, on est tous égaux, tous égaux. Donc, pourquoi que je n'userais pas d'humilité envers mon frère, ma sœur, et de soumission? Alors donc, vous savez, il y a, quelqu'un a dit avec raison qu'il n'y a aucun chrétien qui n'est intrinsèquement, aucun chrétien n'est intrinsèquement supérieur à un autre. On ne peut pas prétendre être supérieur à un autre. On est tous un en Jésus-Christ, comme dit la parole. Donc, se soumettre les uns aux autres. Et c'est écrit dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. C'est quoi ça veut dire? Ce n'est pas d'avoir peur de Dieu, c'est le respect, la révérence face à Dieu, face au Seigneur. La soumission face à mon Seigneur et mon Dieu. Alors, si j'ai cette crainte, cette soumission, cette révérence face au Seigneur, bien, je dois aussi avoir cette... c'est dans la même crainte de Dieu que je dois me soumettre volontairement les uns aux autres. Est-ce que je suis en train de vous compliquer les choses? Non, c'est clair. Dans la même le même esprit, la même crainte de Christ, que je dois me soumettre les uns aux autres, agir avec humilité. Donc, voilà les quatre points qui découlent de quelqu'un ou quelqu'une qui est rempli de cet esprit. On va s'entretenir de la parole de Dieu, on va chanter ensemble, on va remercier Dieu, on va se soumettre les uns aux autres. Et je termine avec quelques leçons ce matin, parce que je vais être pas mal dans le temps. Oui. Premièrement, marcher dans la sagesse ou vivre dans la sagesse, ce n'est pas seulement posséder le Saint-Esprit. C'est faire en sorte que le Saint-Esprit me possède. Il y a une différence ici, là. Me possède, me contrôle entièrement. Voilà ce qu'est être rempli du Saint-Esprit. Une autre chose, c'est que dans la plénitude du Saint-Esprit, on ne va pas rechercher ou on ne va pas aller, comment dire, on ne va pas aller à la recherche de paradis artificiels, comme l'ivresse du vin, par exemple, ou d'autres choses, d'autres plaisirs coupables. Pourquoi est-ce qu'on ne fera pas ça? Parce qu'on l'a trouvé mieux. Si je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai vraiment trouvé mieux, j'ai choisi la bonne part face à Dieu. On a trouvé la pleine suffisance de Christ. On a trouvé l'amour, la joie qui inonde le cœur. Donc, je n'ai pas besoin de petits paradis artificiels ou de remplacement. C'est ça, prendre un coup ou même la drogue de toutes sortes. David dira ceci dans le psaume 4, verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur vin nouveau. Oh! Tu mets dans mon cœur plus de joie que ceux-là qui ont fait une grosse récolte, puis sont en train de fêter ça avec une cruche de vin. Hein? C'est à peu près ce que le verset est en train de nous dire ici. On a trouvé mieux. On a vraiment trouvé mieux. Autre chose, que si nous vivons dans la plénitude du Saint-Esprit, on va aussi rechercher la communion fraternelle. Je ne serai pas un ermite tout seul dans mon coin. Je vais chercher la présence d'autres chrétiens, le rassemblement du peuple de Dieu, pour m'exposer à la parole, chanter des louanges du Seigneur avec mes frères, mes sœurs, puis on va être, en fait, d'être tous animés, comment dire, de la même attitude que David. David, il disait ceci, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons, où? À la maison du Seigneur ou de l'Éternel. » Voilà, je suis dans la joie. La sagesse aussi, c'est de débuter la journée avec le Seigneur, dans la prière, la lecture, la méditation de la parole, et prier Dieu pour qu'on puisse l'appliquer, cette parole, tout au long de la journée, dans la puissance du Saint-Esprit. Et il y a un beau verset, là, je vais vous inviter à tourner avec moi, c'est le seul qu'on va lire ensemble, c'est dans Psaume 143. Psaume 143, verset 8. Verset 8 du psaume 143, 8 à 10, que nous allons lire. Quand j'entendrai plus les pages se froisser, je vais lire. C'est beau? Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Une prière qui peut être très à propos pour nous chaque matin, chaque jour que Dieu fait lever sur nous. Et finalement, il ne faut pas oublier que la plénitude du Saint-Esprit va influencer l'interaction avec les autres. Si vraiment je recherche la plénitude de l'Esprit, mes interactions avec les autres vont être avantageusement influencées. Je vais me soumettre aux autres, agir avec humilité, aimer les autres, pardonner, hein, se pardonner réciproquement, comme j'ai été pardonné. On s'en est rappelé au repas du Seigneur ce matin. Comme j'ai été pardonné, je vais manifester le fruit de l'Esprit, puis je vais démontrer que Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il est ma sagesse. Il est ma sagesse. Écoutez, je vous ai fait une fausse promesse. S'il me restait un verset, est-ce qu'on a le temps? Oui. Dans Job 28, je ne voulais pas l'oublier, ce verset-là, au sujet de la sagesse, que ce n'est pas juste un beau mot, ce mot sagesse. Job 28, le verset 20. Job 28, verset 20e. D'où vient donc, il y a une question ici, d'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui sait, excusez-moi, c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa le fondement et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » On va prier. Ô Seigneur, tu nous expliques et tu nous dis clairement dans ta parole comment vivre comme croyant, comment vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et on n'a pas d'excuse, Seigneur, si parfois on ne marche pas selon tes voies, selon ta volonté. Seigneur, que l'on puisse, jour après jour, prendre vraiment au sérieux ce que tu nous dis, ce que tu nous as écrit dans ta parole, et qu'avec joie, nous puissions nous conformer à ta sainte volonté, que nous puissions rechercher cette plénitude du Saint-Esprit avec tous les bons fruits qui en découlent, avec tous les résultats bénéfiques qui en découlent de cette plénitude. Seigneur, que nous ayons un cœur qui te cherche, nous soyons animés de ta crainte, pas une peur de toi, mais un profond respect, une révérence de ta personne, considérant tout ce que tu es, tout ce que tu représentes. On te prie qu'en cette fin d'année, à cette année bien nouvelle qui commencera bientôt, que ce soit marqué pour chacun d'entre nous, que ce soit marqué par des progrès, que nous avancions de progrès en progrès dans ta connaissance et dans cette sanctification pratique pour glorifier ton nom et pour nous réjouir en toi et qu'on soit des sujets de joie pour tous ceux qui nous entourent. En Jésus, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.